I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
À l'aube du 25 avril 1974, s'est déclenché à l'initiative du MFA, dont on va reparler bien entendu, une révolution aux nombreuses singularités. Issue d'un putsch militaire, sans violence ni victime, quasiment, qui accompagne le démantèlement des colonies, une sorte de, pourrait-on dire, le Vietnam du Portugal. Mais on verra si la personne qui est en notre présence confirmera. Alors, ça s'appelle la révolution des œillets. C'était en 25 avril 1974. Et pour commencer d'en parler, voici quelques mots jetés en pâture. On pourrait parler d'un livre, celui du général Spinola, « Le Portugal et son avenir », qui a peut-être déclenché quelque chose dans les consciences, d'une chanson, « Grandola Villa Morena », de Zeca Afonso, qui est un artiste engagé, chanson qui a été censurée et qui a peut-être déclenché quelque chose, d'un mouvement, le MFA, le mouvement des forces armées, dont on peut dire qu'il est ce qui a mené cette révolution, et d'un symbole, l'œillet. Et on verra pourquoi cet œillet est devenu ce symbole. Pedro Cerdeira, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de consacrer quelques moments à cet entretien. Alors, vous êtes titulaire d'un master en histoire contemporaine, obtenu à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Ah, Lisbonne, quelle ville! Vous êtes chercheur au sein de l'Institut d'histoire contemporaine de la dite université et également membre du Centre d'études lusophones de l'Université de Genève. Membre du comité de l'association du 25 avril Genève. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ou démentir quelque chose ?
Je vais juste ajouter qu'en ce moment, je suis assistant à l'Université de Genève, donc au département d'histoire générale, donc où je fais mon doctorat. J'ai toujours vécu au Portugal et je dirais que le 25 avril, ça, donc pendant que mon enfance, mon adolescence, et puis mon début de vie adulte, ça restait beaucoup dans les esprits. Donc, je dirais que dans le discours public, les gens qui m'entouraient, voilà, des mémoires de famille, c'est quelque chose qui est très présent encore.
Vous êtes donc historien, vous avez fait vos études au Portugal, mais vous êtes depuis quelque temps en Suisse maintenant. Est-ce que cet esprit de la révolution des œillets vous habite-t-il encore beaucoup et à tel point que cela a motivé le choix de votre discipline universitaire?
Il n'y a pas un lien spécifique entre mon choix de carrière et le 25 avril, mais il y a évidemment un lien entre le 25 avril et ma participation dans la vie politique, je dirais, plutôt. Mmh.
Très bien. Alors, comme je l'ai dit, nous avons commencé par énoncer quelques mots. C'était vraiment pour jeter quelque chose en pâture, hein, comme je le disais. Pour commencer, la révolution des œillets, pourriez-vous nous expliquer quelles en sont les aspirations ?
Donc, les aspirations de la révolution des œillets, je dirais, tout d'abord, c'était vraiment en finir avec la dictature, donc vraiment démocratiser le régime, en finir carrément avec la dictature. Il y a aussi un projet, outre la démocratisation, vraiment de en finir avec, décoloniser, donc décoloniser, en finir avec les colonies.
Vous nous décririez la situation. Salazar donc est décédé. Son successeur, Marcelo Caetano, prend la relève dans la continuité de la politique de l'Estado Novo. Mais peut-on dire à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est grippé et que voilà, ce régime autoritaire, peu à peu, se dégrade, s'étiole?
Caetano, il a essayé de changer un peu le régime, donc mais finalement ça vraiment rien changé malgré ces tentatives qui ont été contrées en fait par les ultras du régime. Il y a la guerre qui devient vraiment très 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 longue, donc qui a été déclenchée en 61 et que à ce moment-là ça pèse vraiment sur le Portugal, donc au niveau des hommes, des soldats, des budgets. Donc, il y a vraiment une fatigue par rapport à la guerre.
Oui, oui, parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est un empire colonial, le Portugal.
Oui.
Voilà, donc il faut s'imaginer qu'il y a je ne sais pas, des dizaines de milliers de soldats qui sont contraints d'aller réprimer des mouvements d'autodétermination dans des pays d'Afrique, notamment l'Angola et la Guinée.
Oui, et le Mozambique.
Et le Mozambique, bien entendu, oui. Et que le service militaire, me semble-t-il, à ce moment-là, peut durer de 2 à 4 ans.
Oui, voilà, il y a des efforts, je pense, oui, d'étendre, oui, les commissions. On va faire appel à des miliciens, donc à des officiers miliciens qui ont fini leurs études universitaires, faire aussi des commissions en Afrique, et on va aussi recruter de plus en plus des Africains, en fait, pour l'armée portugaise.
D'accord.
Donc il y a vraiment un gros effort de guerre.
Voilà. Donc également, ça s'accompagne évidemment d'un budget démesuré dans un pays qui connaît des difficultés en infrastructures, etc. Donc on peut dire que dans cette situation-là, on a cette notion, ce concept d'état de novo qui est vraiment mis à mal.
Oui, je serais d'accord, oui. Tout à fait.
Le moteur central de cette révolution, on l'a dit, c'est le mouvement des forces armées et notamment ce que l'on appelle les capitaines d'avril. Voudriez-vous nous dire qui étaient-ils, ces capitaines d'avril, et qu'est-ce que ça désigne, le mouvement des forces armées ?
Donc ces capitaines d'avril, donc voilà, c'est vraiment des officiers, des petits officiers, on va dire, donc ils sont pas des hauts gradés, qui commencent à questionner vraiment le sens de cette guerre, donc qui est trop longue, à laquelle ils voient pas une solution militaire, donc vraiment faudrait chercher ailleurs la solution pour la guerre, pour cette longue guerre. C'est aussi des officiers politisés qui commencent à mettre en question la guerre, la nature du régime lui-même, et qui commencent à s'organiser et qui s'organisent.
Les capitaines d'avril, c'était également donc des, comme vous le dites, ça n'était pas des hauts gradés, mais des militaires, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des officiers, des sous-officiers.
Oui, ils étaient des officiers, mais plutôt des petits officiers. Donc
mobilisés par des valeurs de démocratie, puisque très rapidement, ce qui est déclaré, on a une archive du journal télévisé de 1974 en France, on parle de rétablissement des droits démocratiques.
Oui, ça c'est vraiment un des buts du mouvement de forces armées, c'est vraiment la démocratie. Donc établir la démocratie et en finir avec la guerre et avec la guerre coloniale et décoloniser l'Empire.
Peut-on dire que tout de même, ce fameux livre du général Spinola, « Le Portugal et son avenir », déclenche quelque chose, ou en tout cas donne un signe à ces soldats d'une certaine manière, où il parle justement de autodétermination. Je crois que c'est plus ou moins la première... Il a fait scandale, ce livre, quand il est sorti, parce qu'on parlait de l'autodétermination des peuples africains.
Spinola était plutôt pour une solution fédéraliste, donc c'était pas que de l'autodétermination toute simple, mais... chercher une autre solution que la militaire pour la guerre et l'Empire, qui passait par des solutions fédéralistes, mais qui quand même a mis à mal la hiérarchie et surtout l'élite du régime, ça c'est clair.
Quelle a été la position justement des hauts gradés par rapport aux casernes qui se sont soulevées ? Y a-t-il eu des sanctions, en tout cas une volonté de sanctions ? Enfin, il y a des très mauvais souvenirs quand on prend des exemples contemporains avec des putschs militaires. Je ne vais pas parler du Chili ou même de Franco, mais on sait que dans des casernes, il y a eu des gens fusillés pour leurs idées.
Dans le jour même, il y a eu des résistances, mais la majorité, je pense, des militaires qui ont participé au coup, il y avait un consensus au sein des armées que fallait en finir avec la dictature.
Et le rôle de la PIDE, donc la police politique, parce qu'à ce moment-là, on est quand même dans un état, on l'a dit, l'Estado Novo de Salazar, autoritaire, qui s'est doté d'outils comme justement la PIDE et la police politique. On a plein d'exemples en Europe équivalents. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette police-là ? Est-ce qu'elle s'est délitée ? Est-ce qu'elle a voulu quand même agir d'une certaine manière ? Comment ça s'est passé ?
Vous parlez du jour même, pendant cette période.
Exactement, du jour même et puis après dans les quelques jours qui ont suivi.
Oui, donc c'est notamment au siège de la PIDE où il y a eu des morts, donc des PIDE qui ont fusillé, qui ont tiré sur des gens qui étaient en face du siège de la police. Donc quand même, c'est là où il y a vraiment cette résistance violente à ce qui était en train de se passer. L'institution, elle va être vite, en fait, abolie par le nouveau pouvoir. Et dans un premier moment, les PID, ils vont être en fait emprisonnés.
Donc c'est l'armée qui prend position, hein, le matin, à 5h du matin, qui contrôle la ville. Et c'est,
oui.
Ce sont les soldats qui vont arrêter les personnes de la PID.
Oui, donc tout à fait. Oui, c'est donc les militaires qui se sont soulevés, donc qui font la révolution, qui arrêtent les PID.
C'est un putsch militaire, hein, en quelque sorte, qui a déclenché cette révolution.
Oui, tout à fait.
Quels en étaient les alliés dans la société civile? Est-ce que des syndicats ont tout de suite pris fait et cause? Étaient-ils informés? Est-ce que les étudiantes et les étudiants, par exemple? Et j'aurais une question concernant également la position de l'Église, parce qu'on sait la place de l'Église catholique, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, à cette époque.
Je pense que l'information, elle était vraiment au sein des militaires, donc c'était pas quelque chose qui était organisé au-delà des militaires, mais il y a eu des adhésions immédiates à la révolution par plusieurs secteurs de la société, donc dont les étudiants, peut-être pas les syndicats tels que on les entend, vu que les syndicats au sein de la dictature, c'était des structures de l'État, donc très centralisées, mais il y a eu un soutien, une adhésion immédiate d'une grande partie de la société à ce qui était en train de se passer. Donc, selon moi, montre aussi la fatigue et le mécontentement de la population vis-à-vis du régime. Et pour ce qui est de l'Église, donc l'Église qui avait été un des soutiens du régime dans sa première partie, donc jusqu'aux années 50, je dirais, elle n'était plus unanime par rapport au régime, vis-à-vis du régime depuis quelques temps. Il y avait eu des évêques, par exemple, qui avaient critiqué le régime. Il y avait des mouvements des catholiques progressistes qui mettaient aussi en cause le régime depuis quelques années. Donc, je pense qu'il y a eu des réactions différentes au sein de l'hiérarchie catholique. Je dirais.
Donc on peut dire que la population était acquise à la cause et il y avait donc une église qui était divisée.
Oui, je dirais que oui. Je pense peut-être l'hiérarchie officielle, elle était quand même à 100% à côté du régime, mais il y avait des épisodes au sein de l'église vraiment qui montraient que c'était pas une position unanime. Donc il y avait des catholiques vraiment qui mettaient en cause le régime.
Oui. Alors là, il y a deux petites choses sur lesquelles j'aimerais qu'on passe quelques temps. Ce sont les œillets, parce que quand on parle de liesse populaire, eh bien, les œillets viennent prendre cette forme symbolique extrêmement importante que l'on a retenue au travers des années. Et puis, c'est une chanson qui, elle aussi, a traversé les âges, Grain de la Villa Morena, qui a été le signal du début, propulsé par une radio. Alors, voudriez-vous nous dire quelques mots des œillets? Comment ça se fait que c'est ce symbole-là et comment est-il apparu? Et puis, quelques mots de cette chanson, de son auteur, Zeca Afonso, et de la manière dont ça a servi de sonnette d'alarme par sa diffusion à la radio.
Les œillets, c'est vraiment devenu un symbole de cet événement. Ça commence, je crois, par une histoire vraiment qui relève un peu de la petite histoire. C'était une serveuse à la base de restaurant qui avait acheté des œillets pour décorer le restaurant, mais le restaurant il n'a pas ouvert à cause de la révolution et elle avait quand même les fleurs sur elle et du coup elle les a donné à des soldats en fait, donc qui faisaient le coup. Puis c'est devenu un symbole en fait d'une révolution pacifique. En fait, c'est surtout ce symbole d'une révolution sans violence,
avec très peu de victimes finalement.
Oui, voilà. Donc on a dit souvent qu'il n'y avait pas de victimes, mais il y en avait quand même. Donc oui, mais que, voilà. Donc les œillets, ils sont devenus vraiment symbole de cette révolution pacifique, presque sans victime.
Et la chanson, alors, dites-nous quelques mots. Qu'est-ce qu'elle contient? Quel est le propos? Et puis peut-être, je ne sais pas si vous vouliez nous dire quelques mots de Zeke Afonso, qui était-il?
Zeke Afonso, qui a été ce qu'on appelle un chanteur d'intervention, donc qui faisait partie de ce groupe de musiciens, de chanteurs, qui, par leur métier, leur art, critiquer le régime, donc critiquer la situation politique au Portugal, qui avait et cette chanson qui est peut-être la plus aussi, je pense, par le biais de 25 avril, est devenue sa chanson la plus iconique, je dirais, qui parle d'une ville dans le sud de Portugal, donc au sud de Lisbonne, et il la décrit en tant que ville, la ville de la liberté, où c'est le peuple qui règne, donc il y a ce message très fort du pouvoir populaire. Et elle fait partie, avec une autre chanson, les chansons signes qui donnent le signe pour la révolution. Donc il y avait une première qui était la chanson avec laquelle le Portugal avait participé à l'Eurovision cette année même. Donc cette chanson qui donne le signe, et puis la deuxième chanson, celle de Zeke Afonso.
De quelle manière est-ce qu'on a décidé que ce serait la chanson et quel signe devrait-elle donner et pour la diffuser par ailleurs? Il faut savoir que l'armée a occupé une radio.
Oui, tout à fait. Ils ont occupé la radio officielle.
Cette chanson-là, dont on sait qu'elle a été interdite, dont on sait qu'elle contient ces valeurs de démocratie et puis de futur possible et meilleur, comment les gens ont su qu'au moment où ils l'entendraient, quelque chose se passerait? Est-ce que ça a été dit quelque part ou comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'était plutôt de l'intuition? Parce que cette chanson étant interdite, dès lors qu'on l'entend, on se dit « il se passe quelque chose ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois bien. Je pense qu'à la base, ce sont vraiment des signes entre militaires. Donc c'est vraiment, ça donne le signe, que la station de la radio elle est occupée, donc la révolution est en train de se passer. C'est vraiment un signe entre militaires, je pense. Oui.
Alors selon vous, est-ce que cette révolution a abouti? Ou est-ce qu'il faut finir le travail d'une certaine manière?
Moi, je pense qu'il faut finir le travail encore. Donc, je pense que la révolution, elle n'est pas aboutie.
Et en quoi est-ce que vous sentez qu'elle n'est pas arrivée à remplir les aspirations qu'elle contenait?
Il y a quelque chose dans laquelle la révolution a réussi, donc la démocratie et donc cette idée de liberté. Donc la censure, c'était fini, la police politique, les prisonniers politiques, la décolonisation aussi. Mais vis-à-vis de cette idée d'une société plus juste qui était aussi à la base dans le mouvement des forces armées, donc faut pas oublier que la constitution, ça allait dans le sens du socialisme, donc vraiment par rapport à tout ce qui était les moyens de production, le contrôle de l'économie par l'État. Et je pense que il y a une partie de la révolution, donc des droits sociaux qui n'est pas abouti, qui est en train, en fait, je pense qu'il y a un héritage de la révolution qui est en train de se perdre.
Alors oui. Voilà, c'était le sens de ma question, de la question oui. Qui allait venir, c'est qu'en reste-t-il dans la tête des gens et notamment des jeunes générations, puisque 1974, c'est pas si loin, mais le temps passe tout de même. Je voulais compléter la question en vous demandant la chose suivante. Dans les esprits, y a-t-il un avant et un après? Est-ce qu'il y a des éléments acquis sur lesquels on sait qu'on ne reviendra pas? Typiquement, le Portugal ne sera plus jamais un empire colonial. Ça, on peut dire que c'est d'une certaine manière acquis. Mais en termes de droits démocratiques, est-ce que vous pensez que, les générations politiques successives vont-elles continuer de doucement aller vers le mieux, même si, comme vous l'avez dit, on est dans une phase à étapes? Ou est-ce que certaines valeurs pourraient être mises à mal avec les changements politiques qui s'opèrent?
Ce que vous venez de dire, c'est pour moi ce qui est en cause en ce moment, donc c'est vraiment la lutte en ce moment. Je pense qu'il y a quand même des droits et qui ont été acquis, des choses qu'on a acquis avec les révolutions, mais qui risquent en fait de se perdre, qui sont en train de se perdre.
Rien n'est gagné en vrai. Il faut toujours être prudent, c'est ça?
Oui.
Et d'une certaine manière, en lutte. C'est une lutte perpétuelle.
Tout à fait. Donc, je pense que depuis la révolution, Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup a changé.
Chez les jeunes, voilà, y a-t-il cette conscience-là qui est toujours présente, ou est-ce qu'on sent que, voilà, c'était la question de la mémoire et de la mémoire collective, c'est toujours assez problématique. On sait que, et notamment au Portugal, comme en Espagne, comme dans plein de pays européens, il y a des événements que l'on essaie d'effacer, ou en tout cas d'occulter d'une certaine manière. Alors, est-ce le cas également au Portugal, ou est-ce que les plus jeunes s'emparent de cette mémoire pour en faire quelque chose et pourraient la réinventer, notamment à l'aune des luttes sociales et écologiques qui ont cours?
D'une partie, je dirais que oui, ça se passe, mais je pense qu'aussi la révolution, donc, et je ne parle pas juste du 25 avril, mais de tout du processus révolutionnaire qui a eu lieu après, le regard sur cette période, en fait, c'est assez partagé. Donc, je pense qu'il y a un consensus peut-être autour du jour du 25 avril, donc la fin de la dictature, mais pour tout ce qui est venu après, c'est assez partagé, donc c'est assez divisé la façon dont on lit, dont on se souvient de cette période. Donc il y a une partie, je pense clairement, des mouvements sociaux, de la vie, des partis politiques qui se positionnent dans la continuité de la révolution. Et une autre partie qui voit dans la révolution un risque de tomber dans le socialisme, dans une dictature communiste. Donc, oui. Donc il y a quand même cet héritage assez partagé. Et je dois dire que, par exemple, dans les cérémonies qui ont lieu au Parlement toutes les années, donc le 25 avril, avec les partis politiques, le discours, il est beaucoup plus l'apologie de la fin de la période révolutionnaire, donc on va dire de la normalisation démocratique, que de le 25 avril.
Ouais, c'est-à-dire qu'on va fêter la fin de l'état de novo dont pour lequel il y a consensus à dire qu'il était à bout de souffle et qu'il fallait absolument changer les choses, mais en vidant d'une certaine manière la révolution de sa substance socialiste, autogestionnaire, démocratique, populaire.
Pour une partie de la classe politique et autres au Portugal aujourd'hui, voilà, toute cette partie de la participation à la vie politique, tout ce qui a été des groupes autogérés, tout ça, ça c'est quelque chose peut-être mauvais.
Qu'en est-il dans les livres d'histoire, dans les livres à l'école ou jusqu'à l'université? De quelle manière est-ce que est traitée la révolution des œillets? On l'épure d'une certaine manière, ou est-ce que on peut dire que tout de même il y a des contenus académiques et des contenus scolaires qui rendent compte de la mesure de la révolution des œillets?
Oui, donc elle fait partie des programmes scolaires, donc parce que le 25 avril c'est quand même la naissance, le point d'origine de notre régime actuel. Donc, on se revoit en fait collectivement dans cette date comme voilà le début du régime actuel. L'école secondaire, j'ai fait des études en sciences humaines, donc c'était assez détaillé le processus, même si c'est un peu positiviste, vous voyez, un peu genre le jour, un peu voilà, un peu l'histoire détaillée, mais on rentre pas dans des interprétations très politiques, on va dire.
Peut-être, moi j'aurais une question pour oui. vous, parce que c'est quand même un peu singulier, dans l'histoire du monde, on voit plutôt les armées arrêter un processus démocratique que le démarrer. Ce qui est particulier ici, c'est que ça a l'air d'être un mouvement qui est parti d'un putsch, on va dire positif, pour faire simple. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée a toujours un statut de gardien de la démocratie, ou est-ce que avec l'histoire et le temps passant, l'armée du Portugal est devenue une armée comme les autres?
Oui, les militaires, l'armée, ils ont gardé une position de privilège sur le nouveau régime pendant une dizaine d'années. Donc, la nouvelle constitution leur consacrait un statut dans une nouvelle organisation politique qui venait aussi, voilà, de ce statut de le faiseur de la révolution. Mais depuis, en 82, il y a une révision de la Constitution, en fait, qui a complètement écarté les militaires de la vie politique. Donc, et là, c'est le moment où l'armée est devenue une armée comme les autres, je dirais. Oui, mais pendant un petit moment, l'armée, elle a gardé quand même une position privilégiée sur la vie dans la vie politique. C'est tout à fait. Et le premier président élu, il était un militaire. Donc, cette idée très forte, voilà, des militaires qui ont fait la révolution et qui ont gardé un privilège pendant une période.
L'histoire du Portugal, de l'Espagne, qui étaient des grandes puissances maritimes qui ont conquis l'Amérique du Sud et qui aujourd'hui, entre guillemets, sont devenus des pays comme les autres. Comment on rattache cette histoire, cette macro-histoire à la révolution des œillets? Est-ce que la décolonisation, c'était aussi plus difficile parce qu'il y avait toujours, je dirais, l'espoir d'être l'empire maritime que le Portugal n'était plus?
Ça, c'est une question très intéressante. Donc, parce que c'est vrai que la dictature, elle avait vraiment misé sur le fait que le Portugal était de nature impériale. Donc, vraiment, il y avait cette connexion très forte entre le régime et l'empire. Donc, comme si c'était une mission nationale de maintenir l'empire, comme vraiment le rempart de grandeur du Portugal. Donc, il fallait absolument garder. Et c'est vrai que même aujourd'hui, donc, le colonialisme, bon, on a fini avec l'Empire, et cette idée de Portugal colonial, elle a été quand même devenue un peu maudite pendant une quinzaine d'années, après la Révolution. C'est vrai que l'imaginaire du Portugal en tant que pays de découverte, elle a repris de l'essor, ou elle a jamais perdu son essor, et on en parle toujours. Donc, en termes d'identité nationale et mémoire collective, c'est un sujet assez délicat. Et je parle pas de tous les efforts que le régime avait fait vers la fin d'investir sur la colonisation. Donc, il y avait, depuis les années 50, beaucoup de Portugais qui déménageaient aux colonies, en fait, donc, et qui ont dû rentrer après la Révolution. Donc ça, c'était aussi une histoire assez compliquée. Mais il y a aussi cette idée qui vit toujours, en fait, qui est toujours de force de Portugal en tant que ce pays qui a fait les découvertes et d'où venait sa grandeur. C'est toujours quelque chose de très fort dans l'identité nationale et la façon dont on pense le pays. Le Portugal, il y a toujours eu, depuis la Révolution, des groupes d'extrême droite. Donc... mais qui était moins visible. Donc il y avait quand même une espèce de tabou, en fait, sur le fait d'être de droite ou d'extrême droite après la Révolution. Mais ils existaient. Il y avait, pendant la période révolutionnaire, il y a eu des actions violentes, des attentats à la bombe menés par des groupes d'extrême droite. Donc puis il y avait des groupes dans les années 90, les skinheads et tout. Donc ça a toujours existé, mais il y avait aussi un consensus de ça, c'est mauvais, ça c'est pas, on veut pas de ça une fois la dictature finie. Mais on voit donc sur les dernières années, il y a un peu, je dirais qu'il y a un peu ce tabou qui se brise, et du coup l'espace public, sur l'espace public, il y a vraiment des partis et des groupes de droite qui s'assument avec un discours xénophobe, raciste, nationaliste, qui s'affiche complètement.
Donc on peut dire que de nombreux défis attendent la société portugaise à l'aune de ce 21e siècle.
Oui, tout à fait. Oui.
Et selon vous, la prochaine révolution, elle ne partira probablement plus des casernes. Alors, s'il fallait que quelque chose, que des mouvements surgissent, selon vous, d'où sortirait-il, d'où viendrait-il, comment se structurerait-il? Parce que une des choses dont on n'a pas parlé, mais qui est évidemment évidente lorsque l'on parle des militaires, c'est qu'il y a une organisation intrinsèque qui existe, qui préexiste avec des matériels, avec une manière de faire. Alors, on peut bien entendu ne pas être d'accord avec ça et ne pas fonctionner comme ça, mais on est obligé de l'admettre. Les militaires fonctionnent. Alors selon vous, s'il y avait, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, finir le travail, tout d'un coup une flambée révolutionnaire, notamment autour du climat, c'est une des notions qui est beaucoup actuellement prégnante, d'où sortirait-elle au Portugal, selon vous, de votre point de vue, d'un observateur extérieur, mais en même temps complètement impliqué, à quoi vous pensez?
Les mouvements sociaux, je dirais, qui s'intéressent à des questions climatiques, de logement, un peu de post-productivisme. Oui, donc je dirais que...
Donc c'est la société civile.
La force, oui, je dirais que oui. Oui, je vois pas ça vraiment dans la classe politique. Je pense que voilà, pour les militaires, je vois pas l'armée portugaise en ce moment en tant que vraiment organisation penchée à gauche.
Ouais, c'est sûr. Donc on peut dire que ce qui incarne et ce qui incarnerait l'avenir potentiel de la révolution des œillets, eh bien, il est à trouver, il est à chercher dans la société civile, dans les mouvements, comme vous l'avez dit, qui ont trait au logement, qui ont trait à la justice climatique, à la justice sociale.
Oui, ça c'est mon avis, oui.
D'accord. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aimerais, Pedro Cerdeira, vous remercier beaucoup du temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. On va rappeler juste que vous êtes titulaire d'un master en histoire contemporaine, que vous êtes chercheur au sein de l'Institut d'histoire contemporaine, également membre du comité de l'association du 25 avril Genève et membre du centre d'études lusophones à l'UNIGE, à l'Université de Genève. Pour en terminer, deux choses. D'abord, avez-vous des conseils, une filmographie, une bibliographie à nous recommander pour s'informer, pour aller un petit peu fouiner, débusquer des choses concernant la révolution des œillets? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est une question complètement ouverte. Y a-t-il une question que nous ne vous avons pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre?
Non, pour les questions, je pense que vous avez très bien préparé, vous avez touché vraiment les questions, hein, vraiment, les enjeux, ils étaient là. Et puis pour ce qui est des conseils de bibliographie, filmographie, pour vous conseiller quelque chose qui est en français, il y a un livre de Yves Léonard sur l'histoire contemporaine du Portugal, qui, je pense que voilà, c'est un bon ouvrage pour s'initier à cette histoire. Et sinon, filmographie, il y a le film qui passe souvent à la télé, qui on montre dans les écoles. Il y a un film assez didactique sur ce qui est passé ce jour-là, qui a été réalisé par Maria de Medeiros, qui s'appelle Les Capitaines d'Avril, justement. Mais je dirais que plus intéressant serait d'aller voir les films faits juste après la Révolution, en fait. Donc, il y a une filmographie très intéressante de réalisateurs qui, notamment Margarita Cordero et Antonio Reis, qui sont partis à la campagne faire des films, donc un peu un mélange documentaire-fiction, et qui, je pense, sont des portraits assez intéressants qui interpellent beaucoup de Portugal de l'époque.
Toute dernière question, est-ce que ce sujet d'étude, notamment à l'université, mais aussi ailleurs, est-ce qu'il est encore présent dans la société portugaise? Est-ce qu'on sent que des étudiantes et des étudiants ont envie d'aller chercher, d'aller débusquer des choses, d'aller faire revivre un esprit, ou est-ce que c'est devenu quelque chose qui est un petit peu poussiéreux et puis voilà, que l'on laisse un peu de côté?
Non, au contraire, je pense que de plus en plus ça, c'est quelque chose qui est propre aux historiens qui, d'une façon classique, ont peur des sujets très récents. Et du coup, comme le temps commence à passer, il y a des plus en plus de gens qui s'intéressent. Et je pense, voilà, que c'est vraiment un sujet à creuser où il y a beaucoup de travail d'historiens et autres à faire sur, c'est une période très riche, vraiment, où il y a beaucoup de choses à étudier. Et il y a de plus en plus des chercheurs qui s'y intéressent, et je dirais des chercheurs qui viennent de plusieurs positionnements politiques. Donc oui, c'est très riche comme champ d'étude.
Eh bien, au moins, c'est une mémoire vivace qui a cours, et ça, eh bien, on salue. Alors, merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Pierre, encore quelque chose à dire, ou est-ce qu'on conclut?
Non, merci. Merci beaucoup.
Alors, merci, pareil. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Antifasciste, antiraciste, Libre Radio, une antenne d'alerte et de combat. www.libradio.org. Pardon, devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.